Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, nous allons parler d'un beau documentaire, Monk Panonica, qui revient sur cette étonnante rencontre et cette étonnante histoire qui a lié l'immense pianiste de jazz Thelonious Monk et la baronne Panonica de Königswarter, qui, je reprends la présentation du documentaire par Arte, donc la baronne Panonica de Königswarter, qui va tout quitter pour accompagner à New York la révolution du pianiste Thelonious Monk et l'installer avec le bebop sur la scène internationale. Dans l'Amérique ségrégationniste des années 50, le jazz est méprisé et Monk interdit de club après une arrestation pour détention de drogue. Nica, la baronne Panonica, les aide et les héberge dans sa suite d'hôtel où Charlie Parker mourra. Puis elle les hébergera aussi dans sa maison du New Jersey. Dans un carnet de cuir rouge, elle consigne aussi les portraits de ses amis jazzmen, de Charlie Mingus à Miles Davis, en passant par John Coltrane, saisis sur le vif avec un Polaroid, qu'elle documente de 3 vœux recueillis auprès de chacun d'eux. Photos et textes composent alors l'album simple et sensible d'une génération d'artistes en lutte qui se retrouvent au Five Spot pour de légendaires jam sessions. J'ai tout de suite accroché lorsque j'ai reçu le communiqué d'Arte annonçant ce documentaire parce qu'il y a quelques années, ce carnet de Panonica de Königswarter avec les photos et les 3 vœux de ses musiciens de jazz est paru en livre en français aux éditions Buchet-Chastel. Et je l'avais acheté. Et ce drôle d'objet et son passionnant contenu m'avaient intrigué, fasciné, enthousiasmé. Je suis donc heureuse de pouvoir vous proposer aujourd'hui une rencontre avec Jacques Goldstein, qui a réalisé ce très beau documentaire qui sera diffusé le 1er mai sur la chaîne Arte et qui est visible à partir du 24 avril sur arte.tv. Bonjour Jacques Goldstein.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de monter ce projet de documentaire sur cette histoire ?
Alors, j'ai toujours eu envie, en fait, de faire un film sur Thelonious Monk. Alors, au tout début, il y a une émotion musicale. Je me rappelle précisément de l'instant et du lieu où j'ai entendu Thelonious Monk pour la première fois. J'étais en fac, on avait séché un cours, j'étais chez un copain, il a mis un disque de Monk sur sa platine, c'était Thelonious Monk Underground, et voilà, ça m'a immédiatement touché. Ensuite, je suis rentré comme assistant à la télévision, sur France 2, sur une émission musicale, et je me suis dit que, puisque j'avais mis un pied dans la porte, il fallait absolument que je fasse un film sur Monk. Sauf que c'était en 1982, c'est il y a bien longtemps. En 1982, malheureusement, Thelonious Monk meurt. En 1983-1984, il y a un très beau documentaire sur Monk qui a été produit et réalisé par Charlotte Zverin, qui s'appelle Straight No Chaser, qui est sorti. Et donc je me suis dit, bon, bah, voilà, je ne pourrais pas faire mieux, donc j'ai mis l'idée quelque part dans ma tête, et j'ai fait des tas d'autres films, et je ne me rappelle plus en quelle année, 2005-2006, le fameux livre que vous avez cité est paru. Et là, je me suis dit, parce que je connaissais Panonica, mais je ne savais pas qu'elle avait produit ce document historique. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai la possibilité de raconter une histoire, de parler de Monk, mais pas que. Je vais pouvoir d'abord raconter l'histoire d'une amitié assez extraordinaire, mais aussi, grâce à ce document, qui est comme un instantané d'une scène musicale, je me suis dit, j'ai un arrière-plan fantastique pour pouvoir poser mes deux personnages devant, Monk et Panonica. Et voilà. Et là, je raconte une histoire qui est plus large que celle de Monk, qui est plus large que celle de Panonica, qui est leur histoire à eux deux, à l'intérieur de la grande histoire du jazz. Voilà. Je me suis toujours attaché à parler de la musique dans le cadre de la société dans laquelle cette musique est produite. Voilà. C'est-à-dire que je fais pas des documentaires de musicologie. J'inscris, peut-être, si, d'une certaine façon, mais j'inscris toujours la musique dans la société dans laquelle elle est née. Voilà.
Et là, effectivement, il y a un contexte vraiment intéressant. Et qui est, pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas cette fameuse baronne, est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu pour déjà faire connaissance avec elle, cette femme assez étonnante, je vais juste citer... Déjà à l'époque, elle décide d'apprendre à piloter, elle rejoint la résistance, elle a un parcours assez étonnant. Et après, on va parler de la suite qui est vraiment très étonnante.
C'est d'autant plus étonnant d'où elle vient, parce que c'est la fille de Charles de Rothschild qui était le chef de la famille anglaise des Rothschild, qui était un banquier. Et son père, déjà, était un personnage un petit peu particulier parce qu'il était banquier malgré lui, c'est-à-dire qu'il a hérité de la charge familiale. De la banque, mais ce qui l'intéressait, c'était l'entomologie, c'est-à-dire l'étude des papillons et des insectes. Et c'est pour ça qu'il a découvert un papillon en Hongrie, qu'il a appelé Panonika, et il a donné ce nom-là à sa fille. Et donc, Panonika est la fille du baron de Rothschild, dans la branche anglaise. Donc, rien, absolument rien ne la prédisposait à avoir la vie qu'elle a eue. Si ce n'est quand même que son frère avait comme professeur de piano un noir américain qui s'appelait Eddie Wilson, qui donc y avait du jazz dans la famille. Mais bon, elle avait été programmée pour épouser quelqu'un, un aristocrate de la haute société. Et comme elle avait déjà du caractère, elle avait décidé d'apprendre à piloter et elle a rencontré son mari sur un terrain d'aviation. Son mari, c'est... Monsieur de Koenigswarter, dont je ne me rappelle plus le prénom, et qui au moment de la Deuxième Guerre mondiale a rejoint les forces françaises libres. Et elles aussi se sont engagées tous les deux. Voilà. Et à la fin de la guerre, Monsieur de Koenigswarter s'est retrouvé ambassadeur de France au Mexique et Panonika s'est retrouvée femme d'ambassadrice au Mexique. Et elle s'est ennuyée. Voilà. Donc, elle est partie à New York, elle a entendu le jazz et elle a décidé, voilà, ça l'a subjugué et elle a plongé dans cet univers-là. Et elle a rencontré Thelonious Monk en 1954 à Pleyel, à Paris.
Voilà. Oui, c'est ça, c'est étonnant parce que cette rencontre se fait donc à Paris, à la salle Pleyel. Et ce qui est étonnant, c'est que chacun va faire basculer la vie de l'autre, en fait.
C'était déjà entamé du côté de Panonika. C'est une pianiste qui s'appelle Mary Lou Williams, une pianiste nord-américaine qui l'a présentée, en fait. Non, elle connaissait déjà un petit peu le jazz et surtout, elle avait déjà entendu Around About Midnight, le morceau le plus célèbre de Thelonious Monk, qui est d'ailleurs le morceau de jazz le plus enregistré au monde et le plus joué au monde. Et elle a voulu, quand elle a appris qu'il passait à Paris, elle a décidé d'aller à Paris. Voilà. Et effectivement, au retour, elle a décidé d'aider Thelonious et de participer pleinement à l'aventure du jazz à New York à cette époque-là.
Laurent de Wilde, que vous interviewez dans le documentaire, qui est biographe aussi de Monk.
Et musicien.
Oui, et surtout.
Je ne l'ai pas crédité comme musicien dans le film parce que je ne l'ai pas fait jouer dans le film. Voilà. Et donc, je l'ai crédité de musicien, mais il est musicien aussi.
Il fait des choses aussi très libres, très étonnantes et très. Qui est pianiste. Notamment, il y a eu une tournée assez récemment avec Rélima.
Oui, c'est son dernier disque avec Rélima.
Oui, voilà. Donc, lui, il dit dans le documentaire, elle, Panonika, reconnaît tout de suite Monk pour le génie qu'il est, et Monk reconnaît tout de suite Panonika pour sa compréhension de ce qui se passe dans sa musique. Je trouve que c'est vraiment étonnant la puissance de cette reconnaissance mutuelle qui va transcender toutes les barrières, parce que cette rencontre va durer toute leur vie, enfin, jusqu'au décès de Monk. Et c'est étonnant parce qu'en fait, ça transcende toutes les barrières, et des barrières, il y en avait beaucoup.
Ah ben, y a pas deux mondes plus éloignés. Je veux dire, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est pourtant pas un hasard, mais il fallait vraiment un sacré alignement de planètes pour qu'ils puissent se rencontrer, ça c'est sûr.
Et puis que se rencontrer vraiment, parce qu'ils auraient pu juste se croiser, mais ils reconnaissent chacun dans l'autre des qualités qui vont rester liées tout le temps et qui vont chacun servir la vie de l'autre quand même.
Mais ça tient au grand brassage de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, elle a conduit des ambulances pour les forces françaises libres en Afrique.
Et donc, qui fait qu'elle conduisait très vite à New York.
Oui. Et elle, comment dirais-je, elle conduisait de façon, oui, comme même très très vite. Hein. Il y a même une anecdote où elle a fait une course un soir avec Miles Davis, Miles Davis dans sa Ferrari et lui dans sa et elle dans sa Rolls Royce. Et c'est elle qui a gagné. Non non, mais il y avait déjà. Je crois que le monde de 1945 ne pouvait plus vivre avec les mêmes catégories que le monde d'avant. Parce que vu la catastrophe qui s'est produite, qui engage toutes les valeurs humaines, ça ne pouvait plus être tout à fait pareil, je pense. Et pour quelqu'un de sensible, ça faisait une différence. Donc je pense qu'elle était plus disposée à rencontrer l'autre que les gens ne l'étaient avant la Seconde Guerre mondiale.
Et à l'époque, une femme blanche qui fréquente des musiciens noirs, c'est, même si les barrières commencent un petit peu à tomber, c'est un scandale.
C'est mal vu. En fait, aux États-Unis, oui. Moins à Paris. À Paris, on a eu Josephine Baker, on a eu les musiciens de jazz nord-américains, il y a eu beaucoup d'échanges.
Mais aux États-Unis, parce qu'elle accueille tous ses musiciens dans sa maison, dans sa suite d'hôtel, au salon où elle réside. Et en fait, ils assument le fait d'avoir envie d'être ensemble, ce qu'ils trouvent juste et leur liberté.
Oui, ce sont des gens qui ont décidé. Ce sont deux caractères absolument entiers, aussi bien Panenica que Thelonious. Thelonious, Monk, d'après ce que j'ai pu comprendre de sa vie, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Il a fait un choix d'être pianiste, il savait qu'il avait quelque chose, et il n'en a jamais démordu. Et il n'a jamais fait l'ombre d'une concession. Ça lui a coûté très cher. Hein. Ça lui a coûté très très cher. Et d'ailleurs, il avait une phrase en interview. Il a dit, le journaliste lui avait demandé, si ça n'avait pas marché, qu'est-ce que vous auriez fait? Il a répondu, j'aurais été un clodo. J'aurais été un des plus grands clodos, parce qu'il était quand même aussi conscient de sa stature. Il n'aurait pas été un petit clochard. Mais donc voilà. Et les deux ont vécu pleinement leur histoire, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient faire, quoi. Et sans concession aucune. Alors certainement, pour Panenica, les choses étaient, comme le dit la musicienne Ava Mendoza, les choses ont été certainement plus faciles du fait de ses moyens. Mais quand même.
Et Ava Mendoza, justement, vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que je trouve ça très intéressant, son témoignage aussi.
Oui, elle est pas très connue en France. C'est une découverte. Je veux dire, c'est un des grands plaisirs de ce métier, c'est d'aller à la rencontre des gens. Et en fait, je ne connaissais pas Ava Mendoza. J'ai fait ce film, généralement je fais des films, je crois beaucoup aux choses qu'on construit sur la durée avec des gens qu'on a rencontrés. Et les musiciens qui sont dans le film sont des gens que je filme depuis des années. Matthew Shipp est un bon ami à moi, je crois que c'est le quatrième film dans lequel il est. Et j'ai demandé à Matthew, au moment où je préparais le film, s'il ne connaissait pas une musicienne. Voilà. Parce que c'est quand même un monde d'hommes.
Mais, oui, d'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Hein. Il y a Marilou Williams, il y a quelques chanteuses de jazz. Et donc, j'avais demandé à Matthew, moi, j'aimerais bien avoir une femme new-yorkaise et une femme jeune d'aujourd'hui. Et Matthew a sorti de son chapeau Ava Mendoza et on a tout de suite accroché. Et voilà. Donc, c'était une des rencontres du tournage.
D'accord. Et moi, du coup, j'ai remonté aussi le fil. Je suis allée voir un petit peu sur le net ce qu'elle faisait, suivre un peu.
C'est une jeune femme d'Auckland. Auckland, c'est une ville intéressante. Auckland, c'est la grande ville noire de la baie de San Francisco. C'est la ville qui a produit les Black Panthers. C'est une ville de gauche, vraiment une ville de gauche aux États-Unis.
On sent dans son vœu, puisqu'on va parler à la fin.
Oui. Voilà. Enfin, elle appartient à une scène qui est bien particulière, qui est une scène. Cette partie-là de la baie de San Francisco, c'est une scène aussi intégrée, c'est une scène dans laquelle il y a eu énormément de rencontres entre musiciens blancs, musiciens noirs, intellectuels blancs et intellectuels noirs.
Voilà. Oui. Et elle se dit, justement, c'est ce qui est intéressant dans ce témoignage, parce que c'est quand même vraiment une autre génération.
Ah, complètement.
Et elle est guitariste, et on voit, elle exprime toute son admiration et l'influence qu'a eu. Ouais. Alors, vous avez réuni des archives, des photos, des extraits de concerts, des contributions donc, de musiciens et d'éclairage, le témoignage donc, du fils de Thelonious Monk aussi. Comment vous avez travaillé? Qu'est-ce qui était important pour vous de montrer, de faire passer au travers de ce documentaire?
Qu'est-ce qui était important? Énormément de choses, en fait. D'abord, qu'on comprenne qui était Thelonious Monk, qu'on comprenne quelle était sa musique, quels étaient les enjeux de la musique noire aux États-Unis à cette époque-là. Mais je ne voulais pas que ce soit simplement une évocation du passé. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qui est présent du passé dans le présent, justement. Et ce qui me permettait, ce que me permettait de structurer le film à partir des vœux, c'était aussi de pouvoir faire formuler des vœux aussi à des musiciens contemporains, de montrer que ce combat continue, hein, même sous une autre forme, parce qu'on voit bien que les vœux exprimés par les musiciens d'aujourd'hui à la fin du film sont quand même différents de ce. On sent quand même qu'il y a eu un progrès dans la lutte pour les droits civiques, en tout cas, et que c'est devenu plus une lutte politique, mais plus générale qu'une lutte pour la reconnaissance des droits d'une race particulière, même si ça reste quand même un peu présent. Et donc c'était ça qui m'intéressait, c'était d'inscrire cette histoire dans le présent aussi. Voilà. Et ce que j'ai compris, moi, de l'œuvre de Monk, et de tout jazzman, parce que j'ai connu quand même beaucoup de jazzman, j'ai eu la chance de partager un appartement avec des jazzman nord-américains quand j'étais étudiant à Paris. Donc je les ai vus de près, j'ai bien compris ce qu'était le jazz. Le jazz, ce sont des histoires individuelles dans une histoire collective. C'est l'inverse d'un groupe de rock, par exemple. Un groupe de rock, c'est une bande de copains de collège, de lycée, qui montent quelque chose, ils ont du talent et gagnent le jackpot. Le jazz, c'est autre chose. Ce sont des individus qui partagent une même culture. C'est-à-dire que j'ai vu à Paris se former des formations pour le soir même. C'est-à-dire qu'un musicien américain arrivait à Paris, il appelait ceux qui pensaient être de son monde au téléphone, il répétait une demi-après-midi, et le concert avait lieu le soir, et c'était fantastique. Voilà. Donc ce sont des individus, hein, c'est un petit peu autre chose. J'ai perdu le film, mais c'est pas grave.
C'était ce qui était important de faire passer.
Bah ça, de montrer aussi que ce sont des individus, mais dans une forme collective. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est une dialectique entre l'affirmation d'une individualité et le partage à un moment donné de quelque chose. Voilà. C'est ça qui était intéressant. Et les musiciens contemporains n'essayent pas de jouer du Monk. Comme l'explique très bien Laurent Deville, Monk, c'est impossible. C'est justement là où je voulais en venir, c'est ce problème d'individualité. Chaque musicien de jazz doit trouver sa propre voix, son propre son, sa propre histoire à raconter. Voilà. Et c'est quand ils se regroupent, ils forment une histoire commune, mais chacun amène sa propre histoire. Voilà. C'est ça ce qui m'intéressait de montrer, et je pense que c'est ça l'essence du jazz. L'important, c'est d'être soi-même, voilà, de trouver son son. Moi j'ai fait pour France 2, il y a très longtemps, un court programme sur Miles Davis, avec une interview de Miles Davis, et Miles Davis disait... Il suffit que je souffle dans ma trompette, que je fasse une note, et on sait qui joue. Voilà. Et bien, Thelonious Monk, c'est pareil. C'est trois notes de piano. Moi, Thelonious Monk, j'ai besoin que de trois notes, et je sais que c'est Thelonious Monk. J'entends ça à la radio, je sais que c'est Monk. Voilà. Je sais que c'est Miles Davis, et je sais que c'est John Coltrane. C'est ça, le jazz.
Alors, il y a cette fameuse maison où Banica héberge beaucoup de musiciens, beaucoup de chats aussi, si j'ai bien compris.
Oui.
Une maison qui est un point de ralliement, mais en fait j'étais un peu frustrée qu'il n'y ait pas plus d'archives vidéo, même de Panonica, et j'ai fait des recherches, je n'ai rien.
Non, parce qu'il n'y a rien.
Quasiment rien, mais c'est ça, alors qu'elle est décédée en 88, donc quand même, il y avait des images possibles.
C'était quelqu'un de discret, c'était quelqu'un qui n'avait pas de problème d'ego, je pense, qui n'avait pas besoin de se mettre dans la lumière. Voilà.
Et il n'y a pas d'interview, il n'y a rien.
Non. Non, non, il y a dans le film de Charlotte Zwerin un moment où on l'entend parler au son, où elle raconte des choses. C'est un travelling assez sombre de nuit. On ne la voit pas, mais elle parle. Oui. Non, elle ne s'est jamais mise en avant.
Parce que même le documentaire dont on a parlé avant de commencer l'interview, que j'ai trouvé dans une version très fatiguée, qui était, je crois, produit par la BBC, d'une heure et demie quand même, et je n'ai pas tout re-regardé, mais je l'ai passé en accéléré tout à l'heure, en me disant, mais quand même, est-ce que eux, ils avaient...
Non, non, non.
Et non, il n'y a
non,
rien plus.
Non, 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 justement, elle essaye de faire parler Panonica, je veux dire, elle parle à sa place. Voilà. Moi, j'avais un contrat moral avec la famille, qui était de respecter cette place discrète de Panonica. Mmh. Et je m'y suis attaché parce que je trouve que c'est juste. Je veux dire, c'est effectivement, il n'y a pas d'interview de Panonica. C'est pas quelqu'un qui s'est mis en avant à l'occasion de ce qu'elle avait pu faire pour les musiciens. Voilà. Et ça ne fait que renforcer pour moi l'admiration que j'ai pour cette femme.
Oui, et que beaucoup de musiciens, visiblement, ont, parce que c'est étonnant le nombre. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu plus de 20 titres qui ont été composés par des grands musiciens de jazz qu'elle avait aidés, ou même qui ne l'ont pas connu et qui lui ont rendu hommage, et qui portent son nom, Monica ou Panica. Ah, ouais. Et on sent dans votre film, effectivement, cette humilité et cette grande sincérité. Elle ne faisait pas ça. C'était pas une histoire d'ego pour se mettre en avant.
Non. Mais par contre, c'était quelqu'un qui était là quand il fallait.
Oui, on sent que c'est très profond, quoi, son engagement par rapport à ce monde. Et puis, il y a aussi dans votre documentaire des petites séquences d'animation que j'ai trouvées très, très réussies. Mm-hmm. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots. Vous avez travaillé avec.
Alors, je ne suis pas.
Est-ce que c'est vous qui avez eu les idées ?
J'y suis pas pour grand-chose. Si, parce que j'ai lancé l'idée d'animation. Et puis, quand j'ai lancé l'idée d'animation au moment des réunions de production au début, et puis après, je me suis dit, mais t'as lancé ça, mais comment tu vas faire ? En fait, si j'avais une idée derrière la tête qui était, comme il n'y a pas non plus d'interview filmée de Monk, c'était quelqu'un qui était très réticent. Si, il y a une interview pathétique qui a été faite par quelqu'un de la télévision française dans les années 60, où il dit rien, en fait. Monk n'aimait pas trop. Et c'était de donner la parole à Monk. Et il y a un érudit français du jazz qui s'appelle Ponzio, qui a compulsé dans un livre, toutes les phrases marquantes que Monk a prononcées en interview. Et je me suis dit, je peux utiliser ces voix de Monk. C'était ma façon de faire parler Monk dans le film. Donc je savais que j'allais utiliser un certain nombre de phrases de Monk, parce que ce qu'on entend sur les animations, ce sont des phrases que Monk a véritablement prononcées, et que j'allais inscrire ça dans le décor new-yorkais et dans le film. Voilà, ça c'était mon idée, ça c'est sûr c'était mon idée. Après, il fallait mettre ça en image. Et moi, je ne suis pas graphiste, je suis pas animateur, je sais quoi faire. Mon stylo, c'est la caméra, enfin, c'est le stylo et la caméra. Ça, c'est une autre forme artistique. J'ai travaillé avec un atelier de graphisme et des graphistes luxembourgeois, très talentueux. Et ils ont eu à me supporter parce que je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Voilà. Donc, c'est surtout à eux qu'il faut porter le crédit du dessin. Voilà. Après, les idées, on a échangé. J'avais quelques petites idées et ils en ont amené beaucoup.
Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était créatif et ça amenait justement ces petites bulles qui ouvrent l'esprit. Un peu comme dans la tête de Monk.
C'est la présence de Monk dans le film. Autre copier d'eau. Voilà. C'était la fonction de la chose. Et puis, un peu de poésie aussi. Un peu de... Voilà.
Et donc son fils, un oncle dans votre documentaire, raconte que Panonica, qu'ils appellent Monica, l'emmenait parfois dans sa Rolls faire la tournée comme une maraude en fait, pour aller aider, récupérer une trompette chez un prêteur sur gage, donner de l'argent ici et là, faisait la tournée des musiciens en difficulté, donc pour aider ces musiciens de jazz. Et je me dis, mais ça devait être vraiment étrange pour lui. Le fils de mon tout jeune, qui lui partageait le quotidien de ces musiciens qui étaient souvent en galère. Et il est à côté d'elle dans cette grande Rolls-Royce, qui est quand même le summum du luxe, à faire la tournée pour aller aider. C'est quand même un choc de culture.
Oui. Oui, mais il me racontait qu'ils étaient allés dans des endroits où normalement. Ça pouvait ne pas très bien se passer, l'arrivée d'une Rolls-Royce, des coins de Harlem et du Bronx, c'est un petit peu dur. Mais en fait, il m'a dit que ça s'était toujours très très bien passé et que voilà, parce que c'était tellement énorme que qu'à la fin ça passait certainement. Et puis surtout, face aux gens qui les voyaient descendre, c'était une telle stupéfaction que ça pose plus de questions que ça ne provoque immédiatement d'agressivité. Et puis je pense que ça tient à l'attitude de Nika. Elle conduisait la Rolls-Royce comme si c'était une Buick. Et elle ne faisait pas très attention, je pense.
Oui, il y avait une Bentley décapotable aussi, j'ai vu. Et donc elle emmenait Monk que jouait dans les clubs le soir.
Oui, oui. Dans un premier temps, elle recevait tous les musiciens dans ses suites au Stanhope, et puis qui était un grand hôtel new-yorkais. Charlie Parker est donc mort Quand j'utilise le terme overdose dans la voix off, ce n'est pas une overdose de drogue, c'est une overdose de tout. Je veux dire, il buvait autant qu'il prenait de la drogue. Donc son corps a lâché chez Panonica. Et à partir de là, ça a été un scandale. Et ça a été un gros problème aussi pour Panonica, parce que le scandale, tous les tabloïds s'en sont emparés. Le roi du bebop meurt dans la suite de l'aristocrate. C'est arrivé jusqu'à la famille en Angleterre, qu'il a désavoué à ce moment-là. Et qui lui a coupé les vivres. Voilà. Bon, maintenant, quand on coupe les vivres dans ce monde-là, il en reste toujours suffisamment pour entretenir un certain train de vie. Voilà.
Oui, c'est ça. Et je ne sais plus si c'est dans le livre. J'ai relu l'introduction justement hier, où je disais que cet hôtel, en fait, comme ils étaient... ils ne savaient plus comment s'en débarrasser parce que ça les dérangeait tout, ah bah parce tout ce monde qui venait. Parce qu'en plus,
ils jouaient le soir.
Ils jouaient la nuit. Ah oui. Et donc, je ne sais plus si c'est dans le documentaire ou là que j'ai lu. En fait, l'hôtel, ils ne savaient pas trop. Et en même temps, c'était quand même une personnalité d'une grande famille. Ils ne pouvaient pas trop la mettre dehors comme ça, comme une malpropre. Et donc, ils n'arrêtaient pas d'augmenter le prix.
Oui, et elle suivait.
Ils ont doublé, triplé.
Oui, et elle suivait.
Oui, elle suivait et elle avait décidé qu'elle resterait là et donc elle payait trois fois le prix. La suite
est... C'est difficile de se débarrasser d'une Rothschild, ça c'est sûr. En tout cas, avec l'argent qu'on peut y réussir. Mais bon, toujours est-il, elle a quand même déménagé dans un autre hôtel qui s'appelait le Bolivar, qui était un peu moins somptueux que le Stanhope. Mais après que l'appartement de Monk ait brûlé, elle a décidé d'acheter la maison dans le New Jersey, qui était la maison de Joseph von Sternberg, le cinéaste. Hein.
Voilà. Et là, il n'y a pas non plus d'archives, il n'y a pas quasiment rien comme archives dans la maison, non. À part quelques photos.
Il y avait quelques photos. Moi, je voulais y tourner, mais ça n'était pas possible parce que il vivait encore à l'intérieur un musicien, un ami de Panonica. Comme je dis dans le film, l'histoire continue. Ce pianiste, c'est Barry Harris. Qui est un pianiste noir vieux et qui malheureusement est décédé là récemment. Il est décédé en fin septembre, je crois, des suites du Covid. Mais quand j'y étais, moi, au printemps dernier, ça ne m'était pas possible d'y tourner. Donc je n'ai pu tourner que la façade. Et j'ai trouvé un angle qui me permettait de faire le raccord avec le Polaroid de Thelonious Monk que Panonica avait pris. J'aurais bien aimé tourner dans la maison, mais ce n'était pas possible. Voilà.
Et on sait ce qu'elle va devenir maintenant, du coup, cette maison ?
Non, je ne sais pas.
Et alors, donc, son fils raconte aussi que son père, qui suivait donc, sa propre route et voulait trouver son propre son, a engendré beaucoup de grands musiciens parce qu'il les a poussés à sortir de leur zone de confort. Donc, s'il n'avait pas été aidé par la baronne, on n'aurait sans doute pas connu Monk. Il aurait été, oui, sans doute un grand clochard, comme on disait. Mais nous, on ne l'aurait sans doute pas connu. Son nom ne serait pas resté dans l'histoire de la musique, peut-être. Et par ricochet, pas mal d'autres grands artistes n'auraient peut-être pas dépassé eux-mêmes leurs limites et marqué autant l'histoire.
Oui, moi, je pense que c'est...
C'est
ce qu'on peut dire, oui. Monk est un point de bascule du jazz, un point central du jazz. Il est vraiment à la frontière entre tout l'héritage de la naissance du jazz, les grands orchestres, la Nouvelle-Orléans, les grands orchestres de swing, le bebop, et on va passer à autre chose. Voilà. Et on va passer au jazz modal, on va passer au free jazz, on va passer à plein d'autres formes. Et il est le point de bascule dans la modernité. Voilà. Il a un rôle absolument central. Et c'est frappant de constater, moi j'ai bien connu les musiciens de free jazz, puisque c'est ce moment artistique, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les Noirs américains, à Paris, ils étaient exilés à Paris. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que tous ces musiciens de free jouent un morceau de Monk. Tous. Enfin, que ce soit Don Cherry, que ce soit Archie Shepp, sur leur disque, il y a tout le temps un morceau de Monk. Tout le temps. Voilà. On n'y échappe pas. Donc c'est une position centrale et c'est un point de bascule.
Voilà. Oui, et ça a été un point de bascule dans sa propre histoire, parce que vous racontez aussi que c'était lors d'un festival, je crois, où Miles Davis joue un de ses titres, oui. Et où en fait personne ne fait attention à Monk et il n'y en a que pour Miles, alors que c'est lui qui a composé.
Oui, ça c'est la destinée de Roundabout Midnight. Ouais.
Oui. Voilà.
que Miles a joué avec la trompette à sourdine, alors ça a épaté tout le monde. Il y a eu une standing ovation. Miles le raconte d'ailleurs. Miles, il comprenait pas. Il dit, ouais, moi j'ai joué Around Midnight comme j'aurais pu le jouer une autre fois. Et en sortant, il y avait même des gars des maisons de disques qui étaient là, qui lui proposaient des contrats. Alors que tout le monde ignorait Monk, qui était le compositeur. Et d'ailleurs, Monk et Miles se sont disputés dans la voiture qui les ramenait après. Voilà.
Parce que Monk aurait voulu que Miles...
Parce que Monk aurait dit à Miles, mais tu l'as mal joué, Around Midnight. Et en plus, tu l'as mal joué. Et Miles lui aurait dit, oui, mais tu dis ça parce que tu es jaloux, etc. Et Monk a arrêté la voiture, paraît-il. Il est sorti et il est rentré après par ses propres moyens.
Et donc, sur une des séquences animées là, que j'ai beaucoup aimé, on entend une phrase magnifique de Thelonious Monk. Une note peut être petite comme une tête d'épingle ou grande comme le monde. Tout dépend de votre imagination. Donc, vous avez distillé ça et là, ces petites phrases-là, qui finissent par composer un tableau. Qu'est-ce qui vous touche le plus de ces deux personnalités étonnantes de Panonica et de Monk?
Je dirais l'exigence et... L'exigence artistique et la rectitude de la vie, voilà. Ce sont des gens qui étaient entiers, qui étaient pleins et qui sont allés tous les deux jusqu'au bout, chacun à sa façon, chacun dans son domaine, voilà. Mais ils sont allés jusqu'au bout, sans aucune concession, voilà. Et tout en restant, parce qu'il y a des gens qui sont capables de ça, il y a des gens qui sont extrêmement ambitieux, etc. Mais tout en restant profondément humain et donc fragile. Voilà. C'est ça que je trouve fantastique. Dans la musique de Monk, ce qui me fascine, c'est que c'est à la fois magistral et c'est bancal. Voilà. Donc c'est profondément humain. Ah oui, c'est magistral, parce que vous pouvez demander à n'importe quel musicien, il y a des morceaux de Monk à jouer, c'est costaud. Pourtant, quand vous croyez que vous pouvez siffloter l'air, parce que c'est absolument évident, hein, il y a des mélodies qui sont évidentes, et puis vous essayez de le faire et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Et quand il joue, on a toujours l'impression que c'est à la limite. Voilà, il y a un petit côté, voilà, mais qui est surprenant et qui fait que vous rentrez dedans. Voilà. Moi, je trouve que magistral et bancal en même temps, pour moi, ça me va très bien.
Et sur ce fameux carnet donc, des musiciens de jazz qu'a réalisé Panonica, donc, ce fameux carnet des musiciens et de leurs fameux trois vœux, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir l'original? Parce qu'en fait, vous reproduisez, on voit une main qui tape sur une vieille machine.
En fait, comment il s'appelle, le fils de Panonica, Sean de Koenigswarter, qui gère les affaires, ces affaires-là, en tout cas, de la... l'héritage de sa mère, m'a donné le deuxième carnet de Panonica. En fait, elle avait deux carnets Hermès de cuir rouge. Il y en avait un qui est celui qui a servi, qui est l'original, où tout est scotché, où il y a les trois vœux, etc. Et il y en avait un autre qui était vierge. Et il me l'a prêté pour le tournage, ce qui m'a permis de reconstruire, de mettre en scène comment elle faisait le soir pour fabriquer ce document. Voilà.
Avec la super belle vieille machine à écrire, là.
Oui, enfin, c'est pas tout à fait la même. En fait, on en avait trouvé une plus ressemblante, mais qui a cassé la veille du tournage. Donc, il a fallu en trouver une autre, qui était un peu plus massive, mais qui était pas mal, qui a marché, en tout cas.
Alors, on voit bien sûr...
Moi, je voulais dire quelque chose sur les vœux de Panonica. Parce que j'ai trouvé sa démarche absolument brillante. Parce que c'est de l'histoire et c'est de la politique sans l'être. Je veux dire, c'était extrêmement intelligent de poser la question des vœux. Parce que ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on n'a pas. Et je veux dire, c'est en fait, en creux se dessine ce qui manquait à ces gens-là.
Oui.
Et c'est ça que je trouve brillant. Et extrêmement politique tout en n'étant pas. Obviously, comme ils disent les anglo-saxons. C'est éminemment politique, mais ça n'est pas évidemment politique. C'est très fin. Et je trouve que c'est bien à l'image de cette personne.
Mais est-ce qu'elle avait l'intention de le publier quand elle l'a fait, on sait, ou c'était destiné juste à ses...
Alors, je ne sais si elle a eu l'intention, elle ne l'a pas réalisé, donc je serais tenté de dire qu'elle n'avait pas l'intention. Mais et c'est en fait, je crois que c'est Nadine, sa petite fille, qui l'a retrouvée dans un carton quand s'est agi de ranger la chambre de Panonica. Dans un carton,
ah oui,
dans un carton sous un lit, oui. Oui, c'était... ça avait été complètement oublié.
C'est incroyable.
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Et le travail photographique des Polaroids est extrêmement intéressant parce qu'il y a, le jazz est une forme artistique qui est presque complète puisqu'il y a la musique, ça a engendré une forme de graphisme et ça a engendré une école photographique de la musique. Je veux dire, tout le monde cadre le jazz à partir des photographies de jazz qu'a fait Francis Wolff, un des propriétaires de Blue Note Records, et les fameuses pochettes de disques de Blue Note Records. On en trouve des imitations dans tous les genres musicaux encore aujourd'hui. On n'a pas fait mieux, au graphisme de pochettes de disques depuis. Donc c'est une esthétique, c'est comme dirais-je, le jazz est une forme esthétique globale, quoi. Et les Polaroids de Panonica s'inscrivent un peu à contre de cette esthétique très léchée. Ce sont des jazzmen absolument détendus, à un moment où ils ne sont pas en représentation, à un moment où ils ne sont pas sur scène et à un moment où ils ne posent pas. Et ça en fait toute la force. Voilà, moi je trouve, enfin, je veux dire, c'est très attachant. Et puis, ce qui avait d'intéressant, c'est que la matière du Polaroid se dégrade un petit peu, donc on voit le temps qui passe aussi. Donc, je trouvais que c'était une assez belle matière visuelle.
Oui, oui. Il y a de très belles images d'ailleurs dans votre documentaire aussi que vous avez tourné. Il y a des belles images d'archives et aussi un pont de nuit à New York là, qui est magnifique, là, dans une brume.
Années 50, oui. Ça c'était pour le soir sombre où Thelonious Monk s'est fait arrêter.
Et en fait, les histoires des 3-2 des musiciens dans le livre, j'ai essayé de retrouver, je crois qu'il y en a 300, hein, c'est ça?
Je ne me rappelle plus exactement.
480 et quelques. Donc, c'est énorme. Et en plus, chacun, 3 vœux. Oui. Donc, vous, comment les avez-vous choisis, les vœux que vous avez extraits?
Je les ai évidemment choisis en fonction des propos que je voulais tenir. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'autres vœux qui sont différents. Mais quand même, quand on le lit, on se rend compte quand même de la revendication de reconnaissance d'un art. Voilà, c'était surtout ça. Il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de vœux sur le racisme, enfin, en tout cas qui souhaitent la fin du racisme, mais il y a aussi beaucoup de revendications sur le fait que ces musiciens-là aimeraient bien qu'on reconnaisse que le jazz est une forme artistique majeure. Parce qu'aux États-Unis, le jazz n'était pas considéré comme une forme artistique. Ce sont les Français, les premiers qui ont considéré que le jazz était une forme artistique. C'est Jazzot, c'est François Delaunay, c'est l'entre-deux-guerres. Et aux États-Unis, non, le jazz c'est de l'entertainment, c'est-à-dire c'est du spectacle, c'est de la variété, c'est du showbiz. Voilà, il faut que les noirs fassent danser et sourient tout le temps, ce que les boppers se sont refusés à faire.
Voilà. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous donnez bien le ton dès le début du documentaire.
Ah, ben c'est ça.
En parlant du bebop et du fait que les blancs ne réussiraient pas à le copier comme ils l'avaient
si souvent. Bon, il y a quelques musiciens blancs qui ont écrit avec les musiciens noirs des pages de cette histoire, hein. Mais il y en a beaucoup aussi qui voilà. En 1955, Benny Goodman a été sacré roi du swing. Benny Goodman, c'est un musicien blanc. C'est pas un mauvais musicien, c'est pas le pire de tous, puisqu'il a toujours imposé des musiciens noirs dans son orchestre. Et le soir où il reçoit le prix du roi du swing, c'est quand même assez fort, quand même, parce que c'est quand même pas lui qui avait inventé le swing, hein. C'était plutôt les Nord-Américains. Il invite 3 musiciens noirs qui viennent faire sa caution. Il sent bien que ça cloche un peu cette histoire, Benny Goodman. Donc il invite 3 grands musiciens noirs et qui viennent. Et on peut se dire, mais pourquoi ils ont collaboré à ce truc qui les écarte? Ben, ils viennent parce que s'ils n'étaient pas venus, on aurait considéré qu'ils avaient mauvais esprit et ils auraient eu beaucoup moins d'engagement. Voilà, c'était ça la situation des musiciens de jazz noir américains dans les années 50. Oui.
Toujours devoir courber les chines pour réussir à surpiquer.
Voilà, et puis accepter de se faire piquer ses idées et que d'autres en retirent les bénéfices matériels.
Voilà. Donc vous aussi, on en a parlé, vous avez demandé aux musiciens d'aujourd'hui, là, vous avez interviewé pour ce documentaire, de vous dire un vœu. Et notamment, ce que j'ai trouvé amusant aussi, c'est Archichette, qui est dans le livre, qui avait déjà à l'époque répondu à Panonica, qui vous a donné aussi un vœu aujourd'hui. Est-ce que de confronter les vœux de ces musiciens aujourd'hui, aux vœux recueillis par la baronne vous a inspiré une réflexion particulière, en dehors du fait qu'effectivement la situation a un peu évolué.
Oui, c'était ça. C'était ce que je vous ai dit. On sent quand même, il y a plus de... Même si la situation des Nord-Américains dans l'ensemble reste quand même un peu périlleuse aux États-Unis, hein, on l'a vu avec Black Lives Matter, ça a quand même fait d'énormes progrès. Et les musiciens aussi ils ont bien pris conscience que leur art est enfin reconnu. Enfin, je veux dire, voilà. Même si commercialement, c'est pas encore tout à fait ça et qu'ils n'en vivent pas tout à fait bien, au moins le jazz a été reconnu comme une forme artistique majeure. Donc les revendications, elles sont plus sociales, généralistes, on va dire, plus que uniquement raciales ou esthétiques. Disons qu'ils préféreraient que la société ait que l'organisation de la société soit un peu plus collective, on va dire, un peu plus humaine, un peu plus, enfin que voilà. Que les droits et besoins humains soient, pris en compte en premier lieu.
Oui, puis là, il y a encore un peu de chemin.
Quelque peu.
Pour terminer, est-ce que vous, qui êtes quand même depuis longtemps admirateur de Monk et qui avez fait déjà pas mal de documentaires, j'ai vu sur le jazz, qui avait déjà interviewé beaucoup de musiciens, d'artistes dans ce domaine, est-ce que vous avez appris des choses sur cette histoire en réalisant ce documentaire? Est-ce que vous avez mis en place tout ce que vous saviez? Est-ce que vous avez découvert, appris des choses pendant le tournage?
J'ai appris des choses sur Panonica, oui. Je connaissais Panonica comme sa légende, mais je ne savais pas grand-chose de sa vie. En fait, ni de la véritable empreinte qu'elle avait laissée. Voilà, c'est surtout ça que j'ai appris. Non, c'est essentiellement ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose d'important où on a fait le tour?
Non, je pense que... Non, à part que recommander aux gens d'écouter Thelonious Monk, parce que c'est une musique qui est fantastique.
Voilà. Oui. Mmh. Oui, je pense que ça donne envie déjà, ce qu'on voit dans le documentaire, ce qu'on entend surtout. Enfin, ce qu'on entend et ce qu'on voit, parce que c'est quand même un spectacle à lui tout seul.
Ah, ça l'était, oui. J'ai eu la chance de le voir, moi, juste avant sa disparition, il est venu. Des promoteurs avaient organisé un festival qui s'appelait Newport à Paris, et c'était au Palais de Chaillot. Ça devait être en, je sais pas moi, 72, 73 peut-être, je sais pas, 74. Non, 72, 73, ça devait être. Et c'était la fin de Monk. Il allait arrêter quelques temps après. Et il est arrivé sur scène, il a fait quelque chose qui était absolument fantastique, parce que c'était un personnage très dada, hein, très surréaliste, Monk. Il avait un tabouret de piano. Il y a deux genres de tabourets de piano, hein. Il y a les rectangulaires comme ça qui peuvent se monter un petit peu, et puis il y a le tabouret strictement rond, hein, une circonférence comme ça, hein. Donc il est arrivé avec ce piano, devant ce piano, il a vu le tabouret était rond, il lui a fait faire un tour comme ça, ce qui revenait exactement au même pour s'asseoir. Voilà. Donc ça, c'était complètement absurde comme geste, mais c'était voulu. Et évidemment, toute la salle a éclaté de rire parce que voilà, c'était le genre de blague que pouvait faire Monk. Voilà. Un truc à la limite de la folie, presque absurde, où on ne comprend pas très bien, mais qui inscrit les choses dans une perspective un peu boiteuse, tout à fait Monk. Voilà.
Très bien. Jacques Goldstein, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un peu des coulisses de ce documentaire et de nous permettre d'en savoir un peu plus. Et j'espère de donner envie donc à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de regarder. Donc, c'est diffusé sur Arte le 1er mai.
Et ça commence à partir du 24 avril. Il est en ligne sur le site
Arte.
Sinon, c'est diffusé le 1er mai. Ben, c'est une très bonne heure pour Monk. Hein. C'est around midnight. C'est à minuit moins 10.
Voilà. Donc, minuit moins 10. Et pour les couches tôt, si vous n'êtes pas devant votre télévision le 1er mai, donc sur arte.tv. Je noterai dans le descriptif du podcast, ouais. Parce que c'est toujours une durée limitée de quelques semaines, deux, trois mois. Donc, je mettrai toutes les informations et surtout le lien, si vous nous écoutez sur une application de podcast ou sur le site sourcesplanète.com, regardez dans le texte qui accompagne ce podcast, je vais vous mettre les liens pour accéder directement au film sur la plateforme arte.tv. Un grand merci.
Merci. Au revoir.
Et bonne continuation.
Vous aussi.
Au revoir.
Vous pouvez retrouver Sous-Suite Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Sous-Suite Planète. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Sous-Suite Planète est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.